Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, la dernière émission de La Voix des Arts consacrée aux créatrices au cinéma, aux pionnières, nous avons rencontré des Allemandes avec la critique de cinéma écrivaine Lotte Eisner, tandis que les actrices chanteuses Marlène Dietrich et Zara Leander nous ont charmées avec leur belle voix chaude. Puis enfin, une cinéaste nommée Lotte Reiniger a su nous convaincre qu'elle fut un précurseur en matière de cinéma d'animation et même avant Walt Disney. Alors nous voici aujourd'hui en 1920 avec une Allemande qui fera ses débuts à succès comme danseuse lors de tournées en Allemagne, en Suisse ou en Tchécoslovaquie et qui sera engagée par l'acteur, réalisateur et metteur en scène de théâtre Max Reinhardt comme danseuse soliste. Bon, malheureusement, un accident au genou la contraindra à laisser sa carrière en suspens. Et c'est ainsi qu'elle se lancera au cinéma pour jouer la comédie dans un premier film pour elle, un film de montagne, intitulé, je le dis en français, « La montagne sacrée », réalisé par Arnold Franck, l'inventeur en quelque sorte du cinéma de montagne. Et dans ce film, elle incarnera une femme tiraillée entre deux hommes. Alors ce rôle lui apportera le succès, si bien que la danseuse-actrice, qui se nomme Leni Riefenstahl, laquelle est née en 1902, poursuivra une carrière d'actrice, mais surtout dans ce type de film de montagne, et elle y tournera encore pendant une douzaine d'années. Alors c'est une femme de caractère, bon, en général pour être danseuse, il vaut mieux l'être car c'est une discipline exigeante pour le corps et l'esprit, ce qui veut dire, concernant Leni Riefenstahl, qu'elle n'hésitera pas à prendre le ski et l'alpinisme pour les besoins de la cause, ce qui lui servira évidemment à être plus crédible dans ses rôles et elle se construira ainsi une belle renommée. Or, femme de caractère, elle l'est, hein, pas facile, d'après ce que j'ai lu, hein, malgré sa façon d'être un peu affectée, ses minauderies, des chatteries, hein, dont, en effet, j'ai pu constater lors de ses interviews. Et, mais quoi qu'il en soit, malgré ses mines affectées, elle sait s'imposer, si bien qu'elle réussira, de devant la caméra, à passer derrière. Et de surcroît, elle écrira ses scénarios, elle deviendra en outre productrice en fondant en 1931 la Leni Riefenstahl Production et tout en étant réalisatrice, continuera de jouer la comédie dans ses films. Et arrivée au sommet de sa carrière, elle sera amenée à diriger une équipe impressionnante de techniciens. Or, son premier long métrage s'intitule « Die Blaue Licht », « La lumière bleue », qui sera sélectionné au Festival de Venise, ce qui lui rapportera la médaille d'argent. Ce film réalisé en 1932 est un film noir et blanc de 85 minutes qui relate l'histoire de Junka, une jeune Italienne au caractère sauvage, un peu étrange, isolée dans la campagne, qui inquiète les villageois car ils seront prompts à la traiter de sorcière. D'autant plus qu'elle seule est capable d'escalader la montagne pour se rendre dans une grotte où, lui, les soirs de pleine lune, une étrange lumière bleue, laquelle est visible du village. Alors d'autres qu'elle ont essayé d'accéder à cette fameuse lumière bleue, mais malheureusement, ils se sont cassés la figure. Jusqu'à ce qu'un peintre, nommé Tonio Kilepi, découvre le chemin praticable qui mène à la grotte et trahit ainsi sa confiance, ce qui fait que les villageois vont se ruer dans la grotte et malheureusement ils vont la piller de ses jolis cristaux avec avidité car c'était cela qui rayonnait à la pleine lune. Et tout ceci se fait sous le regard impuissant de la jeune fille qui, désespérée, va se suicider. Alors, le film paraît-il assez étrange, hein. Bon, je n'ai vu que quelques passages, sera classé dans le genre fantastique. Et d'autres versions filmées de cette histoire seront proposées, car l'histoire fait partie du folklore allemand, puisqu'elle est inspirée d'une légende qui a aussi fait l'objet d'un conte écrit par les frères Grimm. Alors, nous allons nous mettre un peu dans l'ambiance. Aussi, je vous propose d'écouter la musique d'introduction de ce film, musique composée par l'Italien Giuseppe Pecce. Alors après cette prestation à la fois de comédienne et de réalisatrice, il est évident que le talent de Leni Riefenstahl n'est pas passé inaperçu. La réalisatrice-actrice attirera aussi l'attention du régime en place, c'est-à-dire le régime nazi, notamment l'attention d'Hitler qui aurait vu son film, aurait été séduit avec l'envie de la rencontrer. Bien qu'il semblerait que dans une autre version, que ce fut Leni Riefenstahl, que l'on a qualifié d'opportuniste, qui aurait fait les premiers pas, séduite elle aussi par la verve hitlérienne lors d'un meeting politique à Berlin. En tout cas, la rencontre a été concluante, puisque Leni Riefenstahl est choisie pour réaliser des documentaires, films de propagande pour le régime nazi. Bon, ce qu'elle fera, et elle deviendra ainsi la réalisatrice de documentaires attitrés d'Hitler, ce qui, après la guerre 39-40, créera quelques polémiques, car la promiscuité avec Hitler et son régime laisse supposer une adhésion totale aux idées du Führer et peut-être même la connaissance de ses activités criminelles, si ce n'est une participation. Autant dire que Leni Riefenstahl ne se laissera pas impressionner par la rumeur et qu'elle forcera l'opinion à accepter sa version en défendant sa position bec et ongle. Et pour cela, elle mettra en avant sa fonction de créatrice qui a simplement fait le travail artistique pour lequel elle a été mandatée, et ce, sans qu'aucune autre considération, surtout politique, rentre en ligne de compte. En tout cas, elle assurera si bien sa défense qu'elle repartira vers son destin sans trop de problèmes et pourra continuer ainsi, après-guerre, à vaquer à ses occupations, tout en néanmoins restant discrète. Et même elle voyagera pour amener des reportages plus ou moins exotiques. Alors revenons à sa collaboration avec le Parti national-socialiste d'Hitler. Elle commencera d'abord à filmer des rassemblements, puis en 1933, elle sortira son premier film de propagande intitulé, je le dis en français, « La victoire de la foi », qui présente le 5e congrès annuel du parti nazi qui eut lieu à Nuremberg et où Hitler fraternise avec un homme politique, militaire aux états de service conséquents, nommé Ernst Röhm, avec lequel il va collaborer jusqu'à ce que Röhm rentre en désaccord avec lui. Ce qui aura pour Röhm d'ailleurs des conséquences tragiques, car il sera exécuté, assassiné, comme bien des membres du mouvement nazi devenu gênant, dans ce qui a été appelé la nuit des longs couteaux, qui se déroula quelques jours de fin juin à début juillet 1934. Alors il s'agissait là pour Hitler de faire un grand ménage, de purifier son équipe des contestataires, de manière à ne garder que ses plus fidèles adeptes. Alors autant dire que ce fut expéditif, hein, et que toutes les fortes têtes ou proposant un avis différent d'Hitler furent éradiquées. Ceci dit, bon, on n'en attend pas moins d'un homme comme Hitler, qui n'hésita même pas, paraît-il, à sacrifier celui qui était considéré comme son ami, c'est-à-dire Ernst Röhm, car malgré leur proximité amicale, puisqu'ils se tutoyaient, ce qui n'était pas courant, hein, même que Röhm recevait Hitler chez lui en toute intimité pour partager ses repas, et bien malgré tout, Röhm fut éliminé. Alors en 1935, Leni Riefenstahl sort Le triomphe de la volonté, qui est un documentaire très remarqué. Il s'agit d'un second film sur le congrès de Nuremberg, mais cette fois de 1934. Le film en noir et blanc dure 114 minutes et c'est un film impressionnant par ses prouesses techniques et artistiques, avec ses plans divers, ses vues des cieux en contre-plongée, la foule en liesse hurlant sa joie, les responsables du parti haranguant la foule en délire, Hitler en transe, éructant comme on a pu le voir de temps en temps sur les écrans, et le tout sur fond de musique plus ou moins guerrière. Alors Leni Riefenstahl, il semblerait qu'elle fût prise par une sorte de fièvre, car elle n'hésite pas à déployer tout son savoir-faire et sa créativité. Alors elle savait certainement très bien s'entourer de bons techniciens, de bons professionnels. De plus, Hitler ne lésinait certainement pas sur les moyens pour mettre son parti en valeur, ce qui fait que ce film est considéré comme un chef-d'œuvre à la gloire du parti du Führer. Alors il paraît que quelques décennies plus tard, Leni Riefenstahl aurait déclaré, suite peut-être à des rumeurs, et je cite « J'ai seulement montré ce dont tout le monde alors était témoin. À l'époque, on croyait encore à quelque chose de beau. Le pire était à venir, mais qui le savait ?» Bon, ce qui peut être encore crédible. Ceci dit, elle obtient grâce à ce film « Le triomphe de la volonté » en 1935, le Lion d'or du Festival de Venise et le Grand Prix national du film allemand, ainsi que le Grand Prix à l'Exposition universelle des arts et des techniques de Paris en 1937. Alors, nous allons maintenant rentrer dans l'ambiance en écoutant la musique de ce documentaire composé par l'Allemand Herbert Wint.
Thank you.
Alors, suite à tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez bien que Leni Riefenstahl ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et qu'elle a réalisé un autre documentaire, cette fois-ci sur les Jeux Olympiques de 1936 qui eut lieu à Berlin. Film de plus de 3 heures en 2 parties, intitulé « Les dieux du stade pour l'un » et « Jeunesse olympique pour l'autre » ou encore intitulé pour les deux « Olympia ». Alors, c'est un film qui a nécessité 400 000 mètres de pellicule et pas moins de 150 cadreurs et 1 an et demi de travail pour le montage. Et ce film recevra une reconnaissance internationale. Alors avec ce film, Leni Riefenstahl déploie tout son savoir-faire, s'entoure d'une belle équipe de professionnels et Hitler, évidemment, lui donne tous les moyens pour parvenir à ses fins. Alors les prouesses techniques, vous allez vous en rendre compte, c'est bien sûr, sont légion. L'esthétisme est au rendez-vous, en lien avec la beauté de la statuaire grecque antique pour entrer en matière. Bref, ce film est une réussite. Même s'il suscite quelques controverses, car il est de notoriété publique que Leni Riefenstahl est soutenu par Hitler. Et de plus, ces Jeux olympiques ont lieu à Berlin, en Allemagne. Aussi, ce documentaire va-t-il être considéré comme un film de propagande à la gloire du régime nazi de Hitler. Ce en quoi Leni Riefenstahl se défend en écrivant dans ses mémoires, et je cite « J'ai tourné Olympia comme une célébration de tous les athlètes et un rejet de la théorie de la supériorité de la race aryenne ». Alors, il est vrai que ce film présente des performances d'athlètes divers et non aryens, comme par exemple la victoire de l'athlète noir américain Jesse Owens, qui est l'un des meilleurs sprinteurs de l'entre-deux-guerres. Et d'autre part, elle aurait aussi montré des défaites allemandes. Bon, ça, je ne peux pas le justifier, je n'ai pas vu le film en entier. Une autre polémique concerne l'attitude de Hitler face à ses athlètes méritants, mais non à rien, qu'il aurait refusé de saluer. Alors, qu'en penser? Eh bien, j'ai lu que Jesse Owens aurait dit avoir été salué par Hitler et lui aurait rendu son salut. Et l'athlète semblait plus contrarié par l'attitude de son président d'alors, Franklin Roosevelt, à son égard, et celle des Américains adeptes à cette époque de la ségrégation raciale, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Enfin, quoi qu'il en soit, et malgré toutes ces polémiques, eh bien, Hitler est satisfait, car l'Allemagne a quand même remporté 33 médailles d'or. Ben, nous allons écouter un petit peu de la musique de ce film, Olympia. Thank you. Pour continuer à aborder les polémiques, car il y a des zones d'ombre, des on-dit qui avec le temps, pour la plupart, se sont confirmés, il en est une qui reste tenace, et c'est celle qui concerne un collaborateur de Leni Riefenstahl, nommé Willy Zilke. Alors, outre le fait que les bruits courent concernant Leni Riefenstahl et du don qu'elle posséderait pour s'arranger avec la vérité afin qu'elle corresponde à ses intérêts, on souligne son habileté à manipuler, entre autres, les techniciens ou les cinéastes de manière à s'attribuer leur travail. Et il en serait ainsi avec une personne nommée Willy Zilke, photographe de talent, également cinéaste, qu'elle avait convaincu autant que contraint à collaborer avec elle pour ses films et dont elle se serait attribuée partie de son travail. Alors Willy Zilke apparemment était juif, dépressif, il va rentrer dans un asile psychiatrique hein, pour se reposer ou se soigner, et là, eh bien, il sera castré sans qu'on lui demande son avis. Et il semblerait que Leni Riefenstahl ait une part de responsabilité dans son internement. Or, ceci dit, lorsqu'elle aura besoin de lui de nouveau, elle fera tout son possible pour le sortir de l'asile. Et il n'y a pas loin à penser qu'elle s'en est débarrassée lorsqu'elle n'en a plus eu besoin, et encore la rappeler pour le réutiliser à son aise. En tout cas, celui-ci aurait dit, et je cite, « L'enfer d'un asile où je préfère rester plutôt que d'être sous le joug de Riefenstahl. » Bref, on prête à cette dame un côté sulfureux. Ce serait une manipulatrice sans état d'âme, malgré ses airs, de ne pas y toucher. En tout cas, elle s'est manœuvrée, ne serait-ce que pour assurer sa défense, et cela à la fin de la guerre, hein, si bien qu'elle ne paraîtra même pas sur les bancs des accusés. Bon, ceci dit, l'histoire est ce qu'elle est, et je ne connais pas, nous ne connaissons pas toujours tous les dessous. Enfin, nous arrivons au bout d'émission, mais nous n'avons pas fini avec Leni Riefenstahl, que nous retrouverons l'émission prochaine. J'espère que cette émission fut déjà instructive sur l'implication d'une créatrice au cinéma, surtout à cette époque sensible, qui annonce des lendemains plutôt douloureux et sans aucun doute désastreux. Et en attendant de vous retrouver pour la suite des événements, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.